par la suite, pour vous présenter rapidement Vincent Romani, il est enseignant en théorie de l'art à l'ENSA à Lyon, professeur d'exposition et éditeur indépendant. Il a notamment organisé un cycle d'exposition R2G au micro de Vélizy et a aussi publié le livre Anthologie des airs de jeux d'artistes. Travaille aussi sur les liens possibles entre littérature et art. Donc, je remercie beaucoup Vincent d'être avec nous aujourd'hui et donc, je vous laisse la parole pour votre intervention.
Merci. Je vais parler aujourd'hui d'un projet qui formellement ressemble à un adventure playground, à un terrain d'aventure, mais qui n'en est pas un. Il s'agit d'un projet qui s'appelait Le Modèle, un modèle pour une vie qualitative. C'est une aire de jeu. Est-ce que c'est une œuvre? Je voudrais vous montrer justement en quoi c'est une aire de jeu qui repose sur un projet anti-pédagogique, en quoi on va aborder des thématiques qu'on avait déjà abordées hier. La deuxième chose qui m'intéresse, puisque moi je travaille sur la question des relations entre œuvres d'art et aire de jeu, c'est les différentes façons dont cette aire de jeu a pu être. Ce sont les différentes façons dont cette aire de jeu qui a la particularité d'avoir été installée dans un musée, était considérée par son auteur au départ comme n'étant pas un projet artistique, ou en tout cas était un projet artistique à condition de ne pas jouer, et que si on jouait c'était une aire de jeu. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont cette œuvre a été redécouverte et réévaluée par le monde de l'art, en particulier par un critique d'art et commissaire d'exposition qui s'appelle Lars Bang Larsen, qui l'a découvert, puisque c'était son objet d'étude, et la façon dont Palle Nielsen lui-même a été amené à réévaluer ce projet, à le reconnaître comme étant artistique, tout en maintenant son statement initial selon lequel l'art c'est un truc bourgeois pour classe moyenne. Donc, il y a une espèce de paradoxe qu'il maintient. Les archives ont donné lieu à une pièce, et je propose qu'on commence par en regarder un extrait. La pièce fait partie de la collection du MACBA, et du coup j'en profite pour remercier le MACBA qui nous autorise à en visionner quelques minutes. Peut-être, en même temps que les images défilent, je vais expliquer en quoi consistait le projet. Donc, en fait, Palle Nielsen, en 1967, il est diplômé de l'Académie des Beaux-Arts à Copenhague. Et il réalise pendant plus d'une année un certain nombre de projets absolument pas artistiques, mais politiques et militants, qui consistent à fabriquer des aires de jeu dans des quartiers populaires qui n'en sont pas pourvus dans la banlieue de Copenhague. En fait, il mettait des affiches invitant prévenant la population que tel jour, à tel endroit, il y aurait une opération, on fabrique des aires de jeu. Généralement, avant la fin de la journée, la police arrivait et devait tout enlever. Donc, l'idée, c'était de construire. Donc, c'était pas des adventure playgrounds, parce que c'était pas les enfants qui construisaient les choses. C'était véritablement lui et ses camarades, ainsi que les personnes qui étaient prêtes à les aider, qui construisaient des aires de jeu. Donc, c'est là, un certain nombre de grosses aires de jeu. Il a pu faire des aires de jeu avec des balançoires, avec des énormes pneus de tracteurs, etc. Et puis, il a été énormément marqué par mai 68. Et à Stockholm, il a collaboré avec un collectif de militants qui s'appelait Action Dialogue et qui cherchait à modifier le rapport à la ville dans une perspective non pas révolutionnaire, mais réformiste, sur quoi je reviendrai tout à l'heure. Et Palle Nielsen a réussi à convaincre ses camarades d'essayer d'aller convaincre Pontus Sultan de fabriquer une aire de jeu dans le Moderna muséal. Alors il a dû d'abord convaincre ses camarades, parce que l'art étant une chose bourgeoise, pourquoi est-ce qu'on irait s'enfermer dans le musée? Et en fait, Palle Nielsen avait trouvé des financements. Donc en fait, le musée est devenu un laboratoire, non pas pour ses qualités artistiques, mais parce qu'il y avait de la place et on pouvait faire des choses et les enfants allaient venir. Donc en fait, ils ont construit une aire de jeu, donc c'était plusieurs tours avec une piscine de mousse, qui est un peu l'élément phare du projet. Et puis, ils s'étaient fait prêter tout un paquet de choses comme peinture, outils et des masques de De Gaulle, de Mao et de Churchill. Ils avaient en quantité. Ils avaient récupéré des vêtements auprès de l'opéra de Stockholm. Donc les enfants pouvaient se déguiser, peindre, en mettre absolument partout. Et c'était organisé de façon à ce que les adultes ne puissent pas descendre. Donc il y avait que quelques adultes qui étaient dans la fosse. Et puis les enfants jouaient et c'était open bar. Donc ça a été un succès incroyable. Jamais le Moderna Museet n'a eu autant de visiteurs de toute son histoire. Il y avait tellement de queues devant le musée qu'ils ont dû fabriquer des aires de jeu à l'extérieur pour que les enfants jouent en attendant, sans quoi c'était trop ennuyeux. Et puis, au bout d'une semaine, ça n'a pas du tout plu j'ai pas compris si c'était la police ou les pompiers juste à côté. Donc, en fait, le musée a été fermé. Ils ont été obligés de mettre à peu près aux normes. Donc là, ça les a beaucoup énervés. Ils ont fermé ça pendant un week-end et ils ont mis aux normes, respecter les indications qu'avait donné la police, mais ils ont couvert l'espace de drapeaux rouges et ils ont couvert les murs de slogans politiques. Donc je pense que ça va arriver. Et le projet a duré pendant un peu plus de 2 mois. Et puis il y a une chose aussi qui était très importante, c'était que dans la bourse de recherche qu'il avait eue pour financer le projet, il avait, alors c'était un prétexte, mais c'était pas complètement un prétexte, l'idée c'était d'étudier les enfants. Donc il avait réussi à se faire prêter, à récupérer des caméras et des postes de télévision. Alors il n'avait jamais réussi à se financer les bobines, donc du coup il y avait quand même tout le système fait pour organiser les enfants et puis qu'on puisse regarder ça depuis des postes à l'extérieur. Et voilà, donc le prétexte, le projet, c'était de faire une étude sur le comportement des enfants. Pour finir sur la description du projet, à la fin du projet, il a vendu le modèle à une mairie d'une petite ville de banlieue de Stockholm, qu'il a installé sous un dôme pour un groupement de logements. Donc, en fait, ça a été reproduit, perpétué, mais sans jamais que la qualité artistique ne soit valorisée à ce moment-là. Moi, ce qui m'intéresse énormément dans le projet, c'est les intentions. Alan Nielsen, à cette époque, il expliquait, alors je vais le citer, « Pourquoi les enfants ne seraient-ils pas autorisés à faire toutes les choses que nous n'avons pas l'opportunité de faire? C'est ce sur quoi nous travaillons. Alors, ils pourraient jouer et s'exprimer en tant qu'êtres humains ensemble avec d'autres enfants. » Pourquoi ne serait-il pas autorisé à jouer avec toutes sortes de choses, à construire, à jouer avec l'eau et le feu, à peindre? Alors, ils pourraient devenir eux-mêmes et faire ce que nous n'avons jamais réussi à faire. Un communiqué de presse a été rédigé, qui était signé un groupe de travail, alors que c'est pas le Nielsen qui l'avait rédigé. Je vous en lis un extrait, et au niveau de la théorie esthétique, c'est absolument fabuleux. L'idée est de créer une structure pour le jeu créatif des enfants. Alors déjà, il y a l'idée de jeu créatif des enfants, donc on est vraiment dans cette idée filiouesque, que ce qu'il faut développer, c'est la créativité et non pas l'art. Des enfants de tous les âges poursuivront le travail sur cette structure, donc l'idée que le jeu est un travail, le jeu de l'enfant est un travail. À l'intérieur comme à l'extérieur, par tout type de jeu, ils seront autorisés à manifester leur capacité à s'exprimer. Alors là, ensuite, c'est ce qui fait kiffer le théoricien. Le jeu est l'exposition. L'exposition est le travail des enfants eux-mêmes. Il n'y a pas d'exposition. Ce n'est une exposition que parce que les enfants jouent dans un musée d'art. Ce n'est une exposition que pour ceux qui ne jouent pas. Voilà pourquoi nous l'appelons un modèle. Peut-être deviendra-t-il le modèle d'une société répondant aux souhaits des enfants. Peut-être les enfants nous diront-ils tant de choses sur leur monde que cela deviendra aussi un modèle pour nous, nous l'espérons. Voilà pourquoi nous laissons les enfants présenter leur modèle à ceux qui travaillent avec les enfants ou qui ont la responsabilité des conditions préalables que l'on donne aux enfants à l'extérieur dans le monde des adultes. Nous croyons que les enfants peuvent exprimer leurs propres besoins et qu'ils veulent autre chose que ce qui est prévu pour eux. Donc moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est que l'intention est double, c'est proposer un cadre pour le jeu des enfants. Et surtout, c'est d'observer le jeu des enfants. Et en fait, l'art, c'est un cheval de Troie, puisqu'il a recours à une conception complètement antédiluvienne, alors que la fin des années 60, c'est vraiment l'époque de la participation, de l'environnement, où le spectateur devient actif, où l'artiste, l'auteur perd ses prérogatives. Lui, paradoxalement, il maintient une conception traditionnelle et classique du spectateur comme passivité. Et à la passivité du spectateur, il va opposer l'activité des enfants. Et en fait, ce qui l'intéresse, enfin, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est la disjonction qui se passe à ce moment-là entre aire de jeu et œuvre d'art, puisque à cette époque-là, justement, les artistes commencent à se rendre compte que les aires de jeu ressemblent à leur sculpture. Alors, tous ne les acceptent pas. En 1971, Robert Morris fait une installation qui ressemble à une aire de jeu. Il dit c'est absolument pas une aire de jeu. Pas de bol, tous les spectateurs l'ont prise pour une aire de jeu et au bout de 5 jours, elle a été détruite. Mais il refusait le modèle de l'aire de jeu. Ben, le Nifstein, c'est autre chose. C'est je fais une aire de jeu dans un musée, mais ce n'est pas une œuvre d'art. Donc, c'est une espèce de paradoxe complètement dingue à cette époque. En plus, il a 24 ans, donc on pourrait se dire qu'il a... il aurait pu être au fait de toutes ces théories, de toutes ces activités-là. Mais finalement, son activisme politique dépasse son activisme artistique. Et du coup, il continue à disqualifier le musée et l'art bourgeois. Hein, on pourrait lui prêter les mots de Robert Morris à cette époque, qui dit qu'il préférerait se casser le bras plutôt que de contempler un Matisse, parce que, en fait, à force de contempler, on a perdu toute sensibilité. Et justement, l'ère de jeu devient le modèle d'un nouveau rapport phénoménologique au monde. Mais ça, il ne le considère absolument pas le Nielsen. Donc, en fait, c'est le musée est un cheval de Troie, le White Cube est un cadre expérimental, un laboratoire. Et en fait, ce musée, il subvertit la fonction du musée parce que ça sert à isoler ce qu'il explique, le monde des enfants du monde des adultes. Finalement, ce qui compte uniquement, c'est que ça maintient les adultes à distance, qui considèrent ça comme une œuvre d'art parce qu'ils regardent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une œuvre d'art du fait de l'activité du spectateur et non pas du fait de l'activité de ce qui est regardé. Et également, c'est le moyen pour lui de dévaloriser l'art. Mais il considère que, de toute façon, l'art, c'est un truc de bourgeois.
Est-ce que ce serait possible de ralentir un tout petit peu?
Oui.
Les traductrices sont en train de
faire du bien. Et autres, mes excuses, oui. Désolé, à moi, dès qu'on peut parler d'un peu, c'est parti comme en 40. Alors, je suis allé rencontrer le Nielsen pour comprendre c'était quoi ses intentions, sur quoi Lars von Glarsen avait déjà publié beaucoup d'informations. Quand je vous ai dit que le musée a été fermé, qu'il l'a réouvert et qu'il avait écrit des slogans politiques, en fait, il a écrit sur les murs des extraits. Il se rappelle plus lesquels extraits. Il faudrait que je fasse, que je travaille avec un traducteur sur les archives. Mais il a écrit sur le mur des citations du théoricien socialiste réformiste français André Gortz. En 67, a été traduit en suédois son ouvrage qui s'appelle « Stratégie ouvrière et néo-capitalisme ». Et dedans, André Gortz explique que le modèle socialiste ou communiste traditionnel n'a pas marché parce que ce modèle-là expliquait qu'il fallait prendre possession des moyens de production. Je cite André Gortz. André Gortz explique qu'il importe de satisfaire des besoins qualitatifs, soit les besoins d'un développement libre et multilatéral des facultés humaines, le besoin d'information, le besoin de communication, de fraternité, le besoin d'être libre. Donc il ne s'agit pas seulement, il faut également se libérer de l'exploitation et de l'oppression et de l'aliénation dans le travail et dans le loisir. Donc finalement, André Gortz regrette, pour le citer à nouveau, qu'il n'existe pas de société socialiste sur laquelle le mouvement ouvrier des pays de capitalisme avancé puisse prendre modèle. Finalement, les penseurs du socialisme ont échoué à donner un modèle de société qualitative, puisque le modèle socialiste n'a proposé qu'un modèle productiviste, qui finalement est similaire au modèle capitaliste. Donc, il nous manquerait un modèle. Et en fait, la réponse à la question que pose André Gortz, enfin, la réponse que donne Palin Houston, c'est de dire il faut regarder les enfants. Les enfants, c'est ce modèle qualitatif, c'est un modèle de vie qualitatif qu'il faut regarder à condition de les mettre à distance de l'influence des adultes. Donc, c'est la raison pour laquelle il va faire cette aire de jeu. En fait, l'aire de jeu, pour lui, c'est un projet scientifique. C'est un projet scientifique complètement assez naïf. C'est un projet scientifique qui consiste à dire si on observe le jeu des enfants, on va pouvoir en déduire des patterns de comportement. Donc, c'est une conception complètement rousseauiste, très classique, primitiviste. C'est vraiment du primitivisme politique, l'idée selon laquelle l'enfant, c'est le moment de l'antériorité, et cette antériorité est un moment de pureté, de pureté axiologique, finalement. Puisque c'est le début, c'est tous les commencements, et du coup, on va trouver un modèle de société dans le jeu des enfants. Et justement, le jeu des enfants ne peut s'exprimer pleinement qu'à la distance de l'influence des adultes. Alors évidemment, c'est tout ce que la psychologie nous dit que ça ne se passe. Voilà, ça ne se passe. La psychologie et la sociologie nous disent que ça ne se passe pas du tout comme ça. La socialisation fonctionne beaucoup par l'imitation, mais voilà, il développe cette idée selon laquelle les enfants peuvent fournir ce modèle. Évidemment, c'est une idée qui était véritablement en vogue à l'époque, l'idée selon laquelle l'individu est aliéné, les besoins réels sont réprimés par la société de consommation. Enfin, voilà, donc il lisait Marcuse, il lisait tous ses auteurs. Sa grande référence aussi, c'était Augusto Ball, le théâtre des opprimés. Donc ça, c'était véritablement le grand modèle de toute sa pratique. Cette hyper-normativité de l'enfance, ça repose sur une approche complètement primitiviste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a une approche primitiviste de l'enfant comme modèle politique, mais il refuse le modèle de l'enfance, enfin, du primitivisme artistique de l'enfant. C'est ça qui est très très surprenant, c'est que cette idée du primitivisme, c'est l'idée effectivement de l'enfance est créatrice de valeurs, hein, c'est l'idée que le commencement c'est le commandement, l'antériorité chronologique est une supériorité logique. Donc ça on peut aller chercher Nietzsche, hein, c'est l'idée que formule Nietzsche dans Ainsi parle Zarathoustra, quand il explique l'enfance est innocence et oubli, un renouveau et un jeu. Une roue qui roule d'elle-même, un premier mouvement, une sainte affirmation. Donc l'idée, c'est que l'enfance, c'est pas le début d'un processus. C'est pas le début d'un processus qui va mener à quelque chose d'autre où l'enfant va se supprimer. C'est le moment des possibles. C'est le moment des possibles et l'âge adulte, c'est le moment qui va ternir cet âge des possibles. Et donc en fait, ce qui est très intéressant dans cette approche, c'est qu'on peut la développer selon plusieurs façons. Alors, en 1976, Alexander Kluge et Oskar Necht publient Öffentlichkeit und Erfahrung, sphère publique et expérience, donc qui a jamais été traduit en français, mais c'est un essai qui consiste à qui est une critique de la définition habermasienne de l'espace public, et du coup, ils considèrent que donc il y a un très très court chapitre qui est très très beau où ils expliquent que finalement le jeu spontané des enfants, ça met en cause le monde des adultes. Et du coup ils vont prendre pour exemple le fait qu'il y a eu beaucoup d'espace pensé pour les enfants dans les révolutions prolétariennes, et c'est l'idée que finalement les enfants sont une forme de normativité qui met en cause le rôle de l'adulte. On pensait qu'il y a un potentiel révolutionnaire dans le comportement des enfants. Alors ça, évidemment, ce sont des projections, etc., mais c'est des choses qui étaient véritablement discutées et qui étaient considérées de façon plutôt sérieuse. Donc c'est l'idée, voilà, que le désordre des enfants rompt la stabilité de l'espace public et que du coup, le jeu de l'enfant a des vertus révolutionnaires, a des vertus de remise en cause. Donc, ce sont des conceptions qui s'opposent complètement à, par exemple, les théories de Hannah Arendt dans La crise de la culture. L'idée, Hannah Arendt, justement, montre qu'elle s'oppose à l'inversion de la polarité entre enfants et adultes, hein. Elle refuse elle fait les reproches à ses antipédagogies que l'enfant s'est transformé en une sorte de monde, alors que l'enfance, par la natalité, doit assurer la continuité. Du coup, selon elle, il y a une inversion qu'elle regrette. Ce sont des questions qui sont aussi abordées par Georges Canguilhem, qui a fait en 1976 et 1979 des conférences qui sont pas, comme j'expliquais hier, il a refusé que ces conférences soient publiées. Elles sont accessibles dans le centre de recherche à Normalsup à Paris qui conserve ses archives. Et puis, du coup, il développe, en fait, les implications en termes de normativité de ces compréhensions de l'enfant où il s'agit d'inverser la polarité entre enfants et adultes. C'est aussi des idées qui seront développées par Georges Lapassade, hein, l'idée selon laquelle, finalement, l'enfance, c'est, l'enfance, ben, c'est le, le, c'est pas le début juste avant le passage à l'âge adulte, en fait. C'est que l'homme serait un enfant qui a réussi à se reproduire. C'est l'idée de la fœtalisation de la néothénie. Je suis désolé, je suis pas très très clair, mais c'est l'idée selon laquelle finalement l'adulte, c'est pas une forme d'achèvement, c'est la perte des potentialités. Par contre, l'enfance, c'est les potentialités qui sont toujours conservées. Donc, du coup, il faut penser non pas l'adulte comme une forme figée, mais l'enfant doit être le modèle de l'adulte. Et du coup, c'est considérer la formation tout au long de la vie, considérer que l'entrée dans la vie, c'est pas spécialement le moment réservé de ce que nous on appelle l'enfant, mais que c'est toujours une nouvelle entrée dans la vie. Et du coup, une remise en cause complète du concept d'adulte. Moi, ce qui m'intéresse dans ce projet, donc ça, c'est des choses dont j'ai pas vraiment parlé avec Palo Nielsen, parce que cette idée de faire le modèle d'une société, donc le compédium n'a pas été réalisé, l'idée a été abandonnée très vite parce qu'il s'agissait d'avoir 350 enfants qui voulaient rentrer dans l'espace, de jouer, etc. Donc en fait, c'est les intentions originales qui ont été oubliées au fur et à mesure du temps. Ce qui m'intéresse également, c'est que l'air de jeu, il en fait finalement le modèle de ce qu'on appellerait maintenant celui d'une subjectivation politique. C'est-à-dire que finalement, le comportement de l'enfant, ça peut servir de modèle pour repenser la société. Et du fait qu'il s'intéresse à la question de la subjectivation politique que symbolise l'air de jeu, ce n'est pas un projet artistique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que maintenant, quand on a redécouvert l'œuvre et qu'on s'y intéresse dans le monde de l'art, on va considérer que c'est un projet artistique parce que c'est un modèle de subjectivation politique. Donc il y a une inversion totale qui s'est opérée entre la valeur qui était donnée au jeu de l'enfant par Palo Nielsen, dont il considérait qu'elle n'était pas artistique, d'autres à cette époque pensaient qu'elle était artistique, mais maintenant il va considérer qu'il a fait une œuvre d'art parce qu'il va donner une valeur artistique au jeu des enfants. Alors, entre-temps, son travail a été redécouvert par Lars Bang Larsen, critique d'art danois, je crois, et commissaire d'exposition, qui a fait son mémoire de fin d'études sur The Model. Il est véritablement allé taper à la porte de Palo Nielsen, il a sorti des archives, et voilà, vous êtes Palo Nielsen, des soins. Et Lars Bang Larsen lui a dit, mais vous avez fait une œuvre d'art. Et du coup, les archives ont donné lieu à la vidéo que je vous ai montrée. Donc en fait, il y a eu véritablement production archivale de l'œuvre. Donc l'œuvre consiste en un dispositif. Alors là, je vous ai présenté une version complètement tronquée. La projection, donc sur l'écran, il y a les 300 images d'archives qui défilent les unes après les autres. Et l'idée, c'est que ce soit une triple projection dans un grand espace plongé dans le noir, avec une bande sonore qui sont des musiques contestataires de l'époque, Bob Dylan, etc., avec des enregistrements des cris des enfants, parce que la télé avait fait un reportage, le premier ministre suédois était venu plonger, enfin ça avait été un succès complètement dingue, carrément, quoi. Le premier ministre était venu plonger dans la piscine, et du coup, il y a un environnement sonore, et l'idée, c'est que ce qui est maintenant une œuvre va essayer de nous faire revivre l'expérience originale, chose que c'est évidemment absolument pas le cas. Donc c'est devenu une œuvre et Palo Nielsen a publié un certain nombre de textes et ce qui est très intéressant, c'est que Palo Nielsen relie cette expérience à l'aune de critères artistiques contemporains. Et du coup, il va invoquer Agamben, la communauté, il va invoquer Derrida, Isabelle Stenger, enfin, c'est très 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 compliqué, il en conclut que Palo Nielsen a échoué. Il considère que c'est un échec, parce qu'il considère que Palo Nielsen a manqué la dimension métaphysique du jeu de l'enfance. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'on a à nouveau une nouvelle préconception de l'enfance, qui n'est pas formulée, l'idée d'une enfance comme pureté, comme moment absolu. Alors ça, c'est des choses qui expliquent, c'est une conception classique. On peut en trouver la formulation, par exemple, chez Agamben, l'enfance, c'est l'origine du langage et le langage de l'origine, etc., etc. Et du coup, Lars Bang Larsen, considère que le projet a échoué. Il n'empêche que c'est devenu une œuvre et qu'ensuite, elle a été réenactée. Donc, elle a été produite en 2013. Pendant une nuit blanche co-organisée par Clara Parisi, d'ailleurs, à la place Stalingrad à Paris. Elle a été, et maintenant, elle est une pièce permanente du musée d'art contemporain d'Arken au Danemark. Alors, elle a complètement changé. a complètement changé. Il y a des animateurs, les parents sont invités à faire des photos et à mettre le hashtag. Enfin, le projet n'est plus le même, quoi. C'est véritablement la commodification du jeu, enfin, qui est complètement à l'œuvre. La chose surprenante, embêtante, c'est que pour Palle Nielsen, il n'en voit pas la différence. Il ne voit pas du tout la différence. Et quand on va lire les textes de Anne-Ring Petersen, la curatrice du musée d'Arkheim, qui a fait rentrer la pièce dans la collection, quand on lit les textes de Lars Bang Larsen, il considère que c'est le même projet. Il n'y a pas de différence entre le projet initial, la version archivale et puis le reenactment. Enfin, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, de voir quelles sont les différentes définitions implicites de l'art qui sont à l'œuvre dans toutes ces façons dont l'œuvre revit, avec des compositions, avec des statements complètement différents. Et puis, Palle Nielsen dans tout ça, quoi, qui me maintient. Alors, ce qui était très intéressant, le rendez-vous avec lui était vraiment très funky. En plus, c'était à table, la bouteille de rouge y est passée. Mais en fait, il identifiait a posteriori tous les facteurs d'identification artistique qu'il n'avait pas perçus à l'époque. En fait, il m'expliquait que c'est une aire de jeu, c'est une œuvre d'art, parce qu'il a été le premier à détruire le White Cube, parce qu'il a été le premier à faire de l'esthétique relationnelle. Alors, je rappelle que le White Cube, c'est 1976, l'esthétique relationnelle, c'est 1998. Mais du coup, il avait retrouvé tous les facteurs d'identification artistique qu'il avait refusés à l'époque où il avait fait la pièce. Il essayait de maintenir ça avec toujours son exigence de vieil anarchiste qui considère que l'art, c'est quand même de la merde et c'est pour les bourgeois. Et c'est très bien qu'ils aient payé ça très cher et puis ça m'a payé une voiture et puis voilà. De toute façon, moi, dans ma vie, j'ai vendu qu'une peinture, et puis ça, et je refuse le monde de l'art. En fait, c'est assez touchant que ce monsieur, qui avait plus de 70 ans, voilà, était en train de voir ce qui était arrivé à sa pièce, parce que la semaine après, je suis allé le voir, il y avait une curatrice du Brésil qui voulait représenter la pièce, etc. Et ça a énormément de succès, et moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est la façon dont... c'est ce sur quoi portent mes recherches, c'est de voir comment, que ce soit œuvre d'art ou aire de jeu, mais ça se voit particulièrement dans les œuvres d'art, qu'elles soient réalisées par des artistes ou qu'elles soient présentées dans un contexte artistique, c'est de quelle façon c'est la valeur artistique accompagne ou alors elle est formatée par une précompréhension de l'enfance, par une précompréhension de l'enfance qui est très rarement explicitée. C'est ce sur quoi porte ma recherche doctorale. J'étudie des expositions d'art contemporain qui parlent d'air de jeu, et pour comprendre la façon dont des commissaires d'exposition d'art contemporain exposent l'air de jeu ou parlent de l'air de jeu, mon hypothèse, c'est qu'il y a des conceptions implicites de l'enfance qui ne sont pas thématisées. Et chez Palle Nielsen, en fait, à chaque fois, on a une conception de l'enfance qui n'est pas formulée. Donc c'était cette conception de l'enfance comme primitivité, avec cette espèce de chose incroyable. Il réussit à séparer la primitivité artistique et la primitivité politique de l'enfant, qui souvent sont rabattues l'une sur l'autre. Et puis ça pose, et je vais finir là-dessus, ça pose la question de savoir quelle est la façon dont, et ça c'est la chose qui m'intéresse fondamentalement dans ce projet de recherche, c'est la façon dont, quelle est la façon dont on va donner une valeur artistique à l'enfant dans l'art. Quel est le quotient, quel coefficient artistique qui lui est reconnu maintenant, sachant qu'effectivement, il y avait ce modèle du début du XXe siècle où enfance égale art, ce qui s'appelle l'enfance de l'art et le primitivisme, qui a été remis en cause par un certain nombre, voilà, par la critique de l'illusion archaïque de Lévi-Strauss, par toutes les critiques qui ont pu être faites contre l'art des enfants, contre l'idée sur laquelle l'enfant produirait de l'art, et de constater que il y a un regain d'intérêt sur la question de l'enfance maintenant dans l'art contemporain, alors qu'il y a 20 ans, l'enfance était considérée uniquement comme régression. Que du coup, il se dessine, une constellation, et je pense que l'exposition... Voilà, très belle exposition. L'art d'apprendre participe de ce, c'est un signe aussi de ce nouvel intérêt pour l'enfant, rétrospectif et aussi prospectif. Et du coup, pour moi, Modellone, c'est vraiment une espèce d'œuvre complètement pivot parce que avec une incroyable richesse. Voilà.